Voilà, nous allons... Là, vous m'entendez très fort, là. Merci pour la personne qui m'a donné le mouchoir. C'était une demande, ils ont eu pitié de moi parce que je sentais que les fleuves, pas toujours vives, allaient jaillir de moi bientôt. Surtout lorsque j'apporte la parole. Alors ce matin, on est bien sûr très heureux d'être là. Et puis ce matin et dimanche prochain, j'aimerais vous apporter... Un tout nouveau thème ce dimanche et dimanche prochain que j'ai intitulé un potentiel formidable, un potentiel formidable. Lorsque l'apôtre Paul écrit à son jeune fils spirituel, il écrira dans la première épître à Timothée, dans sa première lettre, il écrit à Timothée, dans les tout premiers versets, on peut lire qu'il donne la raison pour laquelle il demande à Timothée de rester à Éphèse. Nous savons, entre autres grâce au livre des Actes des Apôtres, que l'apôtre Paul a prêché à Éphèse de manière vraiment extraordinaire. La Bible dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires au travers des mains de l'apôtre Paul. Il y avait des miracles, des guérisons, des délivrances, bien sûr des gens qui se convertissaient. Et au bout de 2 années, donc, il va laisser vraiment une église florissante et il va demander à Timothée de rester à Éphèse en tant que pasteur parce qu'il y avait, alors qu'il part, il s'en va, continue dans ses voyages missionnaires, il va y avoir des faux docteurs qui vont venir et qui vont bien sûr chercher à écarter tous les disciples de Jésus de la bonne voie, de la vérité. Et il va demander à Timothée de prêcher un message, de prêcher des messages qui vont garder le peuple là-bas à Éphèse dans la vérité. Puis il dira au verset 5, 1 Timothée chapitre 1 verset 5, tu peux mettre la diapo suivante, il dira... Le but de ces instructions, c'est l'amour. C'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc il dira vraiment, c'est l'amour. Le but de ces instructions, je te demande de prêcher, mais vraiment, le but de ces messages que vraiment je veux que tu apportes, c'est l'amour. Et d'une certaine manière, ce matin et dimanche prochain, mon but aussi, c'est l'amour, bien sûr. Mon cœur, c'est que nous puissions vivre dans l'amour du Seigneur. Mais j'ai un second but. Est-ce que tu peux plutôt mettre la diapo? C'est pas possible? Ok. Il y a aussi donc un second but que je recherche, c'est vraiment de vous enseigner une vérité vous concernant, de vous enseigner la vérité vous concernant. Il y a des vérités, il y a une vérité entre autres, ce matin que je désire vous enseigner. Beaucoup trop d'enfants de Dieu marchent sans vraiment connaître ce que la Bible déclare sur leur vie. C'était trop loin là. Voilà, et la vérité vous concernant. Et cette vérité, elle est toute simple. Je crois de tout mon cœur, et on va voir cela ensemble, c'est qu'il y a en chacun d'entre nous, au plus profond de notre cœur, il y a en chacun, en chaque femme, en chaque homme, un potentiel formidable. Et j'aimerais vraiment vous enseigner ces choses-là. Beaucoup trop, comme je l'ai dit, d'enfants de Dieu marchent sans vraiment être conscients, sans vraiment savoir exactement le grand potentiel qui est là, le formidable potentiel que Dieu a placé en chacun d'entre nous alors que nous croyons en Jésus. Et Dieu aimerait ce matin ouvrir les yeux de nos cœurs afin que nous voyons ce potentiel qui est là, que nous puissions voir ensemble les richesses que Dieu a placées dans nos cœurs. Je peux vous garantir que lorsque nos yeux s'ouvrent et que nous commençons à contempler, à voir, à découvrir tout ce potentiel formidable que Dieu place dans une vie, ça change une vie. Ça change notre manière de penser, ça change notre attitude. Lorsque David, le roi David, lui-même va prendre conscience, quand Dieu va lui ouvrir les yeux, il va prendre conscience de ce potentiel juste formidable. Et soudainement, alors qu'il voit ses richesses, il va prendre conscience qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu. Et il ne peut s'empêcher de crier dans le psaume 139, « Je te loue, Seigneur, que je sois une créature si merveilleuse. » Seigneur, je prends conscience aujourd'hui, ce matin, Je prends conscience qu'il y a un potentiel extraordinaire en moi et je veux, comme David, te louer que je sois une créature si merveilleuse. David, toujours David, était le plus petit de sa famille. Il était méprisé par ses frères, oublié par son père. Il était celui qu'on envoyait volontiers dans les champs pour s'occuper des brebis, des moutons. Et lorsqu'il revenait, il ne sentait pas très bon. Mais David, alors qu'il est celui qui est oublié par son père, vous vous rappelez de ce passage, lorsque le prophète Samuel vient pour chercher le futur roi d'Israël, et il dit à Isaïe, son père, « Rassemble-moi tes fils. » Et son père prend le soin de rassembler tous ses fils, sauf David. Il était l'oublié, celui qu'on oubliait, on ne pensait pas trop à David. David, lorsque Samuel dit, mais alors il t'en manque pas un, il dit, oui, il a David. Soudainement, il prend conscience qu'il a oublié le petit David qui est dans les champs. C'était celui qui était méprisé aussi par ses frères. Entre autres, lorsque David va sur le champ de bataille, il a son grand frère qui est là. David voit Goliath. Il dit, mais qui est ce géant qui méprise le peuple de l'Éternel? Puis il a son grand frère qui dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Voilà, il y a une petite dispute entre frères. C'était celui qui n'était pas, qui était méprisé, oublié. Il était celui, comme je l'ai dit, qui sentait mauvais un peu. Celui qui avec les brebis, qui se couche avec eux. Mais David va découvrir un potentiel formidable, et fort de ce potentiel, David sait que même si il sent pas très bon, il peut désormais s'approcher devant Dieu et lui offrir un sacrifice de louange qui sent bon. Il sait que même si il est l'oublié de son père, il sait qu'avec ce potentiel formidable, il a de la valeur aux yeux de son Père Céleste. Et qu'il peut s'approcher de lui, que son Père Céleste lui ouvre les bras grands ouverts. Même s'il est méprisé par ses frères, méprisé par les hommes, il sait, grâce à ce potentiel formidable, qu'il ne sera pas le plus petit dans le royaume de Dieu. Il a dans son cœur, il sait que Dieu a une place pour lui et qu'il veut pas et il choisit. Et on le voit dans toute l'histoire, de ne pas être parmi les derniers. Il y a un potentiel formidable en chacun d'entre nous. David qui se présente devant le géant Goliath, fort de cette révélation, de cette découverte, un Goliath qui est 3 fois comme lui, qui est 10 fois comme lui en épaisseur, un peu comme moi aujourd'hui. Non. C'était des muscles, Goliath. Et puis il est là. Et Goliath est là, impressionnant. David, petit, fébrile, tout mince, le voilà qui est là, avec un bâton et un caillou, devant le géant Goliath. Mais il y avait une révélation, il y avait une découverte, il avait pris conscience de son potentiel formidable. Et lorsqu'il regarde Goliath, il regarde aussi son potentiel, et il sait que le Dieu de l'Éternel des armées est avec lui et qu'il ne peut le manquer. Et qu'avec la force qu'il a en lui, avec le potentiel qu'il a en lui, il va pouvoir chercher la force, chercher la foi, chercher la grâce pour pouvoir renverser le géant Goliath. Lorsque tu découvres ton potentiel, tu vas au-devant des géants sans peur, avec foi. Tu vas puiser dans ce potentiel. Tu ne feras pas comme le reste du peuple qui ont couru, se sont cachés, mais alors que tu es conscient de ton potentiel, tu te lèves et tu oses défier les plus grands au nom de l'Éternel des armées. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 18, Paul prie, et il dit, je prie, verset 16, on voit, il dit, je prie, il prie vraiment pour l'Église, il prie, qu'il illumine, que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Paul prie. Il prie pour que l'Église à Éphèse puisse vraiment voir l'appel qui est là, le glorieux appel qu'ils ont reçu du Seigneur et l'espérance qui est attachée à cet appel. Il prie pour qu'ils puissent prendre conscience, qu'Éphèse prenne conscience de la richesse au milieu de la richesse de la gloire, la richesse de la présence de Dieu qui était là. Il prie pour qu'il puisse prendre conscience de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui est là et qui se manifeste avec efficacité. Il prie pour que Éphèse prenne conscience de ce potentiel juste incroyable. Et ce matin, nous prions aussi ensemble pour que Dieu puisse ouvrir nos yeux et qu'on puisse prendre conscience de cet appel que Dieu nous adresse, que Dieu puisse vraiment ouvrir nos yeux et qu'on prenne conscience vraiment de cette puissance extraordinaire, qu'on puisse prendre conscience de la présence de Dieu, de cette présence de Dieu qui habite en nous, de la gloire de Dieu qui est là et qui fait de nous des enfants de Dieu. Alléluia. Que Dieu puisse ouvrir nos cœurs ce matin. C'est une vérité capable de faire de toi, mon frère, ma sœur, un autre homme, une autre femme devant Dieu. Une vérité capable de faire de toi un père, une mère qui va bénir vraiment tes enfants, un homme, une femme, un frère, une sœur, un beau-frère, une belle-sœur, un cousin, une cousine, un homme de Dieu qui va se lever dans ce monde et qui va faire juste la différence, qui va influencer ce monde pour Jésus et qui va amener quelque chose de la gloire de Jésus. C'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? Alléluia. Que le Seigneur vraiment puisse nous bénir ce matin. Alors, ce matin, nous sommes en train de parler du potentiel formidable qu'il y a en chacun d'entre nous. Et je vous demande vraiment d'être attentif, d'écouter tout ce que je suis en train de dire, pour qu'on puisse vraiment ensemble découvrir cela et qu'on puisse ensemble rentrer dans notre destinée. Dernièrement, je fus interpellé par un verset que je connais très bien, que je prie régulièrement, que j'ai souvent prêché à partir de ce verset. Je médite ce verset souvent. C'est un verset donc très important pour moi, pour ma vie, par rapport à la direction que Dieu me donne dans le ministère, un verset très important pour moi. Mais malgré tout, je fus interpellé dernièrement par ce verset. Et Dieu m'a encore ouvert les yeux et m'a vraiment fait prendre conscience de certaines choses. C'est le verset que nous trouvons dans Jean 7, 37 et 38, que vous connaissez aussi, et qui dit ceci, c'est Jésus qui parle, tu peux mettre la diapo suivante. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. » Alors ce n'est pas du sable, c'est un fleuve, c'est le fleuve jaune qui est en Chine, et c'est une photo que j'ai vue sur Internet, et je trouvais que c'était une superbe image, qui monte vraiment de ces fleuves qui jaillissent. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. J'ai lu et j'ai relu ce verset. Mon cœur s'est mis à battre alors que je suis en face d'une vérité que le Seigneur de nouveau place devant moi. Jésus ici nous fait, et nous le savons, une promesse juste extraordinaire. Jésus nous promet. Il dit, si tu crois en moi, si tu crois de tout ton cœur en moi, si tu me donnes ta vie entièrement, et si tu viens à moi et tu bois ce que je t'offre, c'est-à-dire si tu fais de moi ta source, si tu fais de moi ta source principale, ta source primordiale, la source la plus importante, si tu crois en moi de tout ton cœur et si tu fais de moi ta source à laquelle tu vas boire, à laquelle tu vas vraiment dépendre de cette seule source-là. Alors, Jésus dit, il y a quelque chose qui va se passer. Je vais te donner quelque chose. Je vais déposer en toi des fleuves. Ce n'est pas juste un fleuve. Je vais mettre en toi des fleuves. Et je n'en revenais pas. Parce que j'essayais d'imaginer juste un fleuve et je me suis dit, mais un fleuve, c'est déjà énorme. Mais Jésus ici utilise un pluriel, il dit des fleuves. Et Jésus est tout simplement en train de nous révéler ce qu'il veut nous donner. Et cela peut se résumer avec un seul mot. Jésus, alors que tu crois en lui, alors que tu fais de lui sa source, Jésus promet de te donner l'abondance. L'abondance, l'abondance de sa présence, l'abondance de la vie, l'abondance, c'est ce que Dieu veut donner. Et je crois que Jésus est extravagant dans sa vision, extravagant dans ses paroles, parce que notre esprit humain a besoin parfois d'un petit choc. On a du mal à saisir ce que Dieu veut nous donner. Et Jésus veut vraiment qu'on prenne conscience de l'abondance qu'il a pour nous. Cette abondance, c'est le potentiel que Dieu place en toi. Il y a un potentiel formidable et illimité que Dieu place en toi, alors que tu es attaché à la source et que tu dépends de Jésus et de Jésus seul. Il y a un potentiel incroyable et illimité. Et ce potentiel, maintenant, n'est pas appelé à rester en toi. N'est pas, ces fleuves qui sont là ne sont pas appelés à rester juste là en train de dormir. Les fleuves, Jésus n'a pas dit que ces fleuves doivent être des fleuves tranquilles. Non, Jésus dit que ces fleuves vont jaillir. Si quelqu'un a soif, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Ces fleuves doivent sortir. Il y a quelque chose qui doit se passer. Ces fleuves ne peuvent pas rester là. Ce potentiel ne peut pas rester là. Dieu place en moi l'abondance pour que l'abondance soit partagée, pour que l'abondance puisse jaillir autour de moi. Qu'est-ce que le potentiel ? Ce qui constitue un potentiel, ce sont des capacités latentes, de la puissance en réserve, de la force inexploitée, des réussites larvées, des talents cachés, des dons enfouis, des visions et des rêves endormis. Ça, c'est ton potentiel. Des capacités en toi qui sont en état de latence, de la puissance, de la force qui n'est pas et qui est inexploitée, des réussites, des talents, des dons qui sont cachés, qui sont enfouis en toi, des visions et des rêves que tu as reçus mais qui sont encore en train de dormir. Le potentiel, c'est tout ce que vous pouvez être mais que tu n'es pas encore devenu. Le potentiel, c'est tout ce que vous pouvez faire mais que vous n'avez pas encore fait. Le potentiel, c'est tout ce que tu peux accomplir mais que tu n'as pas encore accompli. Le potentiel, c'est tout ce que tu peux atteindre mais que tu n'as pas encore atteint. Parce que c'est là en toi, c'est enfoui, c'est encore caché. Lorsque ton potentiel se révèle, lorsque tu as atteint ce que tu étais appelé à atteindre, lorsque tu es devenu ce que tu étais appelé à devenir, lorsque tu as accompli ce que tu étais appelé à accomplir, ce n'est plus du potentiel. On parle en termes de fruits. Le potentiel est appelé à devenir du fruit. Et Dieu place en toi une abondance de vie. Il place en toi un potentiel formidable dans le seul but que tu deviennes la personne qu'il veut que tu sois et que tu portes du fruit. Est-ce que ce matin, nous pouvons saisir cette pensée et le croire ? Lorsque l'apôtre Paul parle de ce potentiel formidable, il en parlera plutôt, il utilise l'image d'un trésor. Il dira dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Ce trésor n'est pas en toi juste pour t'enrichir, mais pour enrichir les autres afin que Dieu ait toute la gloire. Ce trésor n'est pas en toi pour que tu l'enterres, mais pour que tu le fasses fructifier et que tu aies quelque chose à offrir à Dieu. Dieu veut que nous puisions dans notre trésor afin que nous ayons quelque chose à offrir à ce monde qui donnera toute la gloire à Dieu. Tu vas trop vite, mon frère, mais c'est pas grave, reste là. Dans un pays très, très lointain, j'aimerais juste raconter une petite histoire. Vivait un porteur d'eau. Dans un pays très, loin, très, très lointain, vivait un porteur d'eau. Et chaque jour, cet homme allait puiser de l'eau dans un ruisseau. une histoire que vous connaissez peut-être, que j'ai un peu retravaillée. Et alors qu'il va puiser, il va chaque jour aller dans ce ruisseau, puis il va puiser de l'eau. Il avait deux cruches qu'il va puiser d'eau, et puis il va les accrocher de part et d'autre, à chaque extrémité d'un long bâton. Et il va donc, chaque jour, alors que ses cruches sont remplies d'eau, il les porte sous son épaule avec ses grosses perches, et puis il s'en va. Et puis son boulot était de vendre de l'eau aux différents acheteurs, passants qu'il rencontrait sur le chemin. Et à la fin de sa journée, de nouveau, il puisait de l'eau. Il remplissait d'eau ses deux cruches et il rentrait chez lui. Alors, depuis le temps qu'il utilisait ces deux cruches, il ne semblait pas avoir remarqué qu'une des deux cruches était fêlée. L'une demeurait parfaite, contenant toujours une pleine portion d'eau, tandis que l'autre, à la fin d'une longue marche, arrivait à destination toujours à moitié pleine. Tout se passa comme cela, jour après jour. L'homme alla puiser de l'eau, allait vendre différentes portions d'eau aux différents acheteurs, et puis repuisait l'eau, et puis repartait. Et puis il y avait une cruche qui restait pleine, et puis l'autre cruche, le long du chemin, se vidait petit à petit. Et un jour, la cruche décide de parler à son maître. Et lui dit, « Maître, je suis très triste, je suis même honteuse, parce que tu ne l'as pas vu, mais depuis déjà des années, à chaque fois que tu rentres à la maison, mais je perds de l'eau, parce que j'ai une fêlure qui est là, et l'eau part, et puis je suis très triste et très honteuse par rapport à l'autre cruche qui, elle, est très fière de toujours pouvoir amener la quantité d'eau. » Alors, le maître va dire à sa cruche, c'est une histoire, ne parlez pas à vos cruches. Le maître va dire à sa cruche, « As-tu remarqué que des fleurs ornent notre chemin ? As-tu remarqué que ces fleurs ne se trouvent que de ton côté du chemin ? As-tu remarqué que de l'autre côté du sentier, sur le côté de la cruche intacte, aucune fleur ne pousse ? C'est que j'ai toujours été conscient de ta fêlure. Alors j'ai planté des semences, de jolies fleurs, uniquement de ton côté du sentier. Et chaque jour, durant notre retour, tu les as arrosées. Durant ces 2 années, j'ai pu cueillir ces jolies fleurs pour décorer notre table et embellir notre maison. Et notre jardin aussi, de sorte que chaque habitant du village aujourd'hui appelle notre maison la maison de la joie et de la gaieté. Ils disent en passant, avez-vous vu cette maison belle comme un bouquet de fleurs et qui sent bon comme une rose ? Si tu n'avais pas eu cette fêlure, nous n'aurions jamais eu la gaieté et la beauté. Notre maison n'aurait jamais eu la gaieté et la beauté de ces fleurs. Mais grâce à ta fêlure, aujourd'hui notre maison est belle. Et elle a un impact. Dieu, premièrement, au travers de cette petite histoire, je retire un premier enseignement, c'est que Dieu place en nous un potentiel formidable. Comme ce porteur qui va puiser de l'eau, Dieu nous remplit de sa présence et nous donne un potentiel formidable. Le deuxième enseignement que je retire de cette parabole, et que tout potentiel ne pourra produire le fruit qu'il est appelé à produire et avoir l'impact voulu que dans la mesure où je suis prêt à payer le prix. Payer le prix, c'est d'abord reconnaître et accepter que je suis faible. C'est reconnaître qu'il y a aussi des faiblesses dans ma vie. C'est reconnaître qu'il y a des fêlures dans ma vie. C'est reconnaître que mon cœur a été vendu et vendu au péché. Et qu'à cause de cela, il y a des faiblesses qui sont là. Et toute ma vie, je vais devoir combattre. Je suis dans un combat spirituel. Je vais devoir combattre avec ma chair et contre ma chair. Toute ma vie, je dois faire face à un cœur méchant, attiré vers le péché. Indifférent parfois à l'évangile. Dur à recevoir la parole de Dieu et à obéir. Je dois faire prendre tant que le péché, et tant que nous serons dans un monde de péché, je serai encore avec des blessures. Je serai encore offensé. Parce que ce monde n'est pas parfait. Il y a encore des guerres, il y a encore des maladies, puis je vais ressentir cette faiblesse dans mon corps. Et je crois que payer le prix, c'est aussi reconnaître. C'est regarder les choses en face, et puis je reconnais que mon cœur est faible, je reconnais que j'ai des faiblesses qui sont là, je ne me cache pas la face, je ne vais pas être comme l'autre cru, je suis fier et arrogant. Non, je n'ai rien, je suis fort. Non, je reconnais. Et je marche et j'apprends à marcher dans un esprit d'humilité et dans un esprit de repentance. Seigneur, je reconnais que mon cœur est parfois attiré vers le péché. Je reconnais que mon cœur a été vendu au péché. Mais payer le prix, c'est aussi deuxièmement. Alors que je reconnais et je ferme pas les yeux sur le fait que mon cœur a été vendu au péché, je confesse et je crois que mon cœur a été racheté par le sang précieux de Jésus. Alléluia. Je suis là et j'accepte qu'on dise que je suis parfois imparfait. Oui, parfois je suis imparfait, parfois je n'aime pas ma femme comme il le faut, c'est très rare ça, mais... Parfois j'ai plein de... Je suis sûr que vous pourriez me dire plein de défauts. Vous pourriez me dire plein de défauts. Parle trop vite, tu te sues quand tu prêches, tu... Je sais pas, moi, tu m'as pas dit bonjour, excusez-moi si je ne l'ai pas fait. Vous pourriez me dire un tas de choses. Je les entends, je les écoute. Mais je crois ce que Dieu dit. J'accepte que j'ai des faiblesses. J'accepte qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. Mais je crois ce que Dieu a dit dans sa parole à Paul. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je reconnais que je suis faible, mais je crois que même si je suis faible, Dieu peut m'utiliser, veut m'utiliser. Je crois que j'ai des défauts, je crois que ça va pas très bien dans ma vie quelque part, que des fois je suis boiteux, des fois ça va pas, mais je crois que par la grâce de Dieu, il y a des plans extraordinaires pour moi, et je vais y arriver, au nom de Jésus. Alléluia. Jérémie. Le prophète Jérémie, c'était un homme, un jeune adolescent qui est arrivé, et puis il entend la parole de Dieu. Et puis il entend la parole de Dieu résonner dans son cœur. Et puis Dieu lui dit, je t'ai appelé à être un prophète des nations. Et puis lui, il est juste là, un petit adolescent. Mais je ne sais pas parler, je suis tout petit, j'y arriverai jamais. Mais Dieu dit, tu seras un prophète des nations. Il a entendu, il a vu ses faiblesses, Dieu a écouté ses faiblesses, mais il a choisi de croire ce que Dieu lui disait. Il a saisi la parole, il s'est levé, il est devenu le plus grand des prophètes certainement de son époque. Gédéon, un homme à l'époque des juges. Gédéon, vous connaissez certainement. Lorsque Dieu va venir, alors que tout le pays est attaqué par les Madianites, je crois, Dieu va venir et alors qu'il se voit comme un zéro, il se voit comme le moins que rien. C'était le plus petit de sa famille, et sa famille appartenait à la plus petite des tribus d'Israël. Donc lui, c'était le plus petit des tout petits, puisqu'il appartenait à la plus petite tribu d'Israël, et lui il était le plus petit de sa famille. Donc il était le plus petit des petits. Et quand Dieu vient vers lui, alors que lui peut-être qu'il se voit comme un zéro, Dieu dit, je vois un potentiel en toi. Tu es un vaillant héros et pas un zéro. Il a saisi la parole de Dieu. Et il s'est levé, il a fait des pas, c'était pas toujours glorieux, il a dû se cacher lorsqu'il a dû renverser l'autel, lorsque Dieu lui a dit va renverser l'autel dans la maison de ton père, il a fait ça pendant la nuit, il avait un peu peur, mais il a avancé pas à pas, et petit à petit, alors qu'il avait peur, alors qu'il était faible, il a avancé, il est allé, il est devenu un grand leader. Je peux vous parler de Moïse, un homme criminel qui a tué, un homme orgueilleux. Un jeune homme qui a essayé de devancer Dieu et qui a tué pour cela. Voilà, alors qu'il s'enfuit devant Pharaon, Dieu revient le voir. Un homme brisé sur la montagne. Il est là, Puis Dieu vient vers lui, il est brisé, il a tué, il est là, et puis en plus maintenant il est vieux, très vieux, 80 ans, et puis si vous avez 80 ans, vous êtes jeune encore dans le cœur, j'en suis sûr. Je prie pour que Dieu me permette de vivre jusqu'à 80 ans. 80 ans, et puis Dieu vient vers lui, puis Dieu l'appelle. Un homme brisé, un criminel, et puis Dieu dit, je vois un potentiel en toi. Mais Seigneur, j'ai tué. Seigneur, j'ai voulu aller par mes propres forces. Seigneur, j'ai cru que j'étais fort, mais quand Pharaon a appris la nouvelle, j'ai eu peur et je suis parti. Je suis bourré de crainte. J'ai peur, je suis un criminel, j'ai mon péché qui me poursuit. Puis Dieu est là, il dit, je t'appelle maintenant. Maintenant, c'est le moment. Il saisit la parole, il croit la parole, il la confesse dans son cœur. Et puis regardez Moïse, il avance, mais même c'est difficile d'avancer. Au début il dit même, non je ne veux pas y aller, et puis Dieu se met en colère, mais il y va quand même. Et lorsqu'il arrive devant Pharaon, les choses ne vont pas comme il aurait imaginé. Puis de nouveau il dit, mais Seigneur qu'est-ce que tu as fait? Il se met à pleurer, mais pourquoi tu fais cela? Puis Dieu dit, maintenant je vais agir par une main puissante. Et puis on voit que Moïse, au fur et à mesure, chapitre 6, Exode, chapitre 4, 3, enfin 4, 5, 6, 7, 8, 10, jusqu'à la mer Rouge, qui va grandir petit à petit dans sa foi. Il va prendre confiance dans son appel. Il va vraiment commencer à avoir les yeux grands ouverts sur son potentiel et croire en son potentiel. Croire qu'il est capable vraiment de faire exactement ce que Dieu lui a dit. J'aimerais te dire quelque chose. Si Dieu t'ordonne de faire quelque chose, Dieu te donnera toujours le potentiel pour l'accomplir. Alléluia. Si Dieu dit, je t'appelle à être un évangéliste, Dieu te donnera le potentiel. Si Dieu dit, je t'appelle à faire ceci ou faire cela, Dieu te donne le potentiel. Si Dieu met un rêve dans ton cœur complètement fou, Dieu te mettra le potentiel pour que tu puisses l'accomplir. Alléluia Jésus. C'est pour cela que je crois que Dieu veut faire des grandes choses dans ma vie, mais aussi dans ta vie. C'est pour ça que je vous écoute volontiers. Mais je suis un jeune pasteur, maintenant qui devient très vieux, surtout quand je suis avec les jeunes, mais qui croit que Dieu a d'autres choses pour moi. Et je ne suis pas du genre à rester comme ça. Je veux avancer dans l'appel que Dieu a pour moi. Je veux avancer, je veux prendre du terrain. Je veux avoir une influence dans ce monde. J'ai des faiblesses, mais je crois que par la grâce de Dieu, il y a une puissance qui va jaillir. Et Seigneur, tu vas m'aider à encore avancer. Tu vas m'aider à faire des progrès. Tu vas m'aider, Seigneur Jésus, à devenir l'homme que tu veux que je sois. Et Dieu va t'aider à devenir la femme et l'homme que Dieu veut que tu sois. Dieu va t'aider à devenir le père qu'il veut que tu sois. La mère qu'il veut que tu sois. Alléluia. Jésus, nous voulons glorifier son nom. Laissez-moi terminer, j'ai dit plein de choses qui n'étaient pas prévues, par un dernier poème. Vous me laissez le temps encore 5 minutes? Voici un poème d'un certain poète, inconnu. Peut-être si vous connaissez l'auteur, vous me dites après. Tu peux mettre la diapo. Jeannot Dupardy, né un lundi, baptisé le mardi, marié le mercredi, malade le jeudi, moribond le vendredi, le dimanche enseveli. Et c'est ainsi que finit la vie de Jeannot Dupardy. Alors ce petit poème qui pourrait nous faire sourire reflète avec tristesse la vie de nombreuses personnes qui vivent bien en deçà de leur potentiel. Beaucoup de gens sont rentrés dans une certaine routine, et puis la routine n'est pas mauvaise en soi. Une certaine routine où il n'y a plus rien qui se passe. Une routine où il n'y a plus de saveur. Une routine où il n'y a plus de lumière. Une routine où il n'y a plus rien. Il n'y a plus la gloire de Dieu qui est là. Il n'y a plus la joie de Dieu. Il n'y a plus la puissance de Dieu qui est là. Puis souvent, au lieu d'être formidable comme notre potentiel, on est comme le vendredi. Je ne l'ai pas dit. Mais ce matin, Dieu a des bonnes nouvelles pour nous. Il tend notre main et nous dit, viens dans la destinée que j'ai pour toi. Est-ce que tu es prêt à payer le prix avec moi? Et je vais te faire entrer dans ta destinée. Et la routine, ce n'est pas le problème. Oui, il y aura toujours la routine. On est dans la routine. Moi-même, je suis dans la routine. Lundi, mardi, voilà, je viens au bureau, je ne viens pas. Voilà, il y a une routine qui est là. Tu te lèves le matin, tu vas au travail, ainsi de suite. Pour les retraités, c'est un peu différent. Mais il y a une certaine routine qui est là. Mais je suis convaincu que alors que nous sommes dans une certaine routine, nous pouvons rendre cette routine attrayante. Nous pouvons rendre cette routine motivante. Nous, petit à petit, alors que nous marchons sur le chemin et que nous avançons dans notre routine, alors que nous découvrons ce potentiel, je suis persuadé que nous pouvons parsemer notre chemin de fleurs. Et dans notre routine, je suis persuadé, alors que nous sommes convaincus, nous avons vu ce potentiel et que nous sommes attachés à la source, je suis convaincu que dans cette routine, nous pouvons profiter pour faire des rencontres qui vont changer des vies. Une routine qui va amener la gloire de Dieu. Seigneur Jésus, viens nous aider ce matin. On prie ensemble un instant. Alléluia Jésus. Ce matin, mon message était clair et simple. Il y a un potentiel formidable en chacun d'entre nous. Il y a un trésor immense en chacun d'entre nous. On sait trop, on a limité Dieu, on s'est limité parfois d'autres personnes qu'on rencontre par leurs paroles et leur vision eux-mêmes limitée, mais nous ont limité nous. Mais Seigneur Jésus, je ne veux pas regarder à mon passé. Je ne veux pas regarder à mes origines. Qu'importe que je vienne de Belgique ou d'ailleurs, je suis un enfant de Dieu. Qu'importe, Seigneur Jésus, si je viens d'une famille qui n'est pas très riche. Qu'importe, Seigneur Jésus, s'il y a eu beaucoup d'échecs, même dans ma vie passée. Ce que je sais, Seigneur Jésus, c'est que je ne viens pas d'ici. Depuis que je t'ai rencontré, mon pays, c'est le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'échec. Dans le royaume de Dieu, il y a l'abondance de la vie. Dans le royaume de Dieu, il y a le pardon. Dans le royaume de Dieu, il y a la joie. Dans le royaume de Dieu, il y a la paix. Dans le royaume de Dieu, il y a la puissance de Dieu pour nos vies. Dans le royaume de Dieu, il y a un rêve, une vision pour nous. Dans le royaume de Dieu, il y a l'amour qui est là et qui nous enseigne et qui nous transforme. Seigneur Jésus, nous sommes des enfants, tes enfants. Et ce matin, je prie, Seigneur, pour que tu puisses ouvrir les yeux de notre cœur afin que nous puissions découvrir ce potentiel formidable. Fais-le maintenant, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Beaucoup de personnes ici, alors que nous sommes toujours en prière, les yeux fermés, je reçois la vision, un peu comme du papier de journal qui est un peu froissé, qu'on a plié. C'est comme si, et puis si je veux pousser ma pensée plus loin, souvent le journal, ça nous parle des nouvelles. Et d'une certaine manière, c'est comme si tu avais reçu aussi la bonne nouvelle dans ton cœur. Il me semble que cette bonne nouvelle que tu as reçue, ces promesses que tu as reçues, ces rêves que tu as reçus, ont été froissés, ont été écrasés, ont d'une certaine manière brisés. Il y a des rêves que tu as reçus. Il y a des dons qui sont là en toi, des talents qui sont en toi. Il y a des promesses que tu as reçues. Mais c'est comme si je vois ce papier de journal qui a été plié en boule et t'oses même plus y croire. T'as essayé pourtant, mais t'as rencontré des obstacles, des gens qui t'ont découragé, des gens qui t'ont pas encouragé d'aller dans ce sens-là. Et petit à petit, tu as laissé tomber et tu te contentes de ta petite vie d'aujourd'hui. Et c'est bien. Gloire à Dieu pour cette vie que tu as. Mais Dieu a autre chose pour toi peut-être. Dieu a quelque chose peut-être de plus glorieux pour toi. Dieu a peut-être des gens qui désirent que tu rencontres et tu vas faire la différence dans leur vie. Dieu a peut-être des projets une activité que toi seul tu pourras vraiment faire sous l'onction du Saint-Esprit. Il y a un rêve qui est enterré dans ton cœur et Dieu voudrait le ressusciter ce matin. Il y a des dons et des talents qui ont été enfouis et Dieu voudrait avec toi les déterrer avant qu'ils reviennent pour que tu puisses les faire fructifier. On a dit, tu es nul. Depuis que tu es enfant, on t'entend cela. Tu n'es bon à rien et tu n'arriveras jamais à rien. Et avec le temps, tu as saisi et tu as cru ces paroles. Mais ce matin, Jésus vient et dit, tu es fort. Tu es forte. Tu es mon enfant. Et je t'ai appelé. Je ressuscite maintenant ce qui est mort, dit ton Dieu et ton Seigneur. Je touche ce qui est endormi et je relève ce qui est assis dans la poussière. Le jour de ton deuil arrive à sa fin. Je te revais d'un habit de joie et de louange. Je suis ton Dieu et j'agis dans ta vie maintenant. Merci Saint-Esprit de souffler dans le nom de Jésus. Oh peuple de Dieu, restez dans la présence de Dieu. Ce fut une révélation qui a changé ma vie, changé ma façon de faire le ministère même. Le jour où j'ai découvert qu'il y avait un potentiel, le jour où j'ai découvert que le regard de Dieu sur ma vie était différent de celui des hommes. Jésus vient. Jésus vient. Est-ce que le groupe Louange, s'il est là, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir? Je voudrais juste chanter un dernier chant et puis on va arrêter là. Un dernier chant tous ensemble où on prie le Seigneur. Et comme nous sommes à la fin de ce culte,